Chapitre 4 Le temps de la fin. Je dis, Monseigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Daniel 12, versets 8 à 10. Il me dit, Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Daniel 8, verset 17. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Daniel 12, verset 4. Qu'est-ce que signifie le temps de la fin? Cela ne peut pas être la fin réelle en soi, car dans ce cas, la partie de la prophétie de Daniel qui a été scellée ne serait d'aucune utilité pour l'humanité. Comme les choses révélées sont pour nous, cette partie doit être utile à un moment donné. Aussi l'expression « temps de la fin » doit faire référence à une période juste avant la fin proprement dite, pendant laquelle les choses dites à Daniel seront comprises. Le jour de sa préparation. Sans aucun doute, cela fait référence à l'époque appelée par le prophète Nahum « le jour de sa préparation ». Ici, le prophète parlait de la destruction de Ninive, avec « le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. » Nahum 3, verset 2. L'attention du prophète est d'abord attirée sur une plus grande calamité qui doit venir sur le monde entier, quand les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu, et les rochers se brisent devant lui. C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Nahum 1, versets 5 à 9. Des chars avec des torches enflammées. Encore plus loin, le prophète parle de ce jour de préparation. Les boucliers de ses héros sont rouges, les guerriers sont vêtus de pourpre. Avec le fer qui étincelle apparaissent les chars, au jour qu'il a fixé pour la bataille, et les lances sont agitées. Les chars s'élancent dans la campagne, se précipitent sur les places. À les voir, on dirait des flambeaux, ils courent comme des éclairs. Il se souvient de ces vaillants hommes, mais ils chancellent dans leur marche. On se hâte vers les murs, et l'on se prépare à la défense. Nahum 2, versets 4 à 6. Quelle description exacte des trains rapides modernes, avec le conducteur comptant et recomptant constamment ses passagers, de gare en gare, et eux trébuchant lorsque le train est en mouvement. Puis, il y a l'énorme consommation de sapins pour les traverses de chemin de fer, les tréteaux, les paravalanches, etc. On dit qu'une voie ferrée dans les montagnes de la Sierra Nevada a 47 000 paravalanches en sapins. Et le prophète dit que ce serait au jour de sa préparation. Le prophète Joël parla aussi de ce temps de la fin quand l'ordre est donné aux serviteurs du Seigneur. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Joël 2, verset 1. Et aussi le prophète Sophonie, lorsqu'il dit « Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. » Sophonie 2, versets 1 à 3. Pour comprendre plus en détail ce que signifie l'expression « temps de la fin » et quand celui-ci commence, on notera un autre exemple où le même terme est utilisé. Dans le 11e chapitre de Daniel, une puissance persécutrice est introduite, qui allait maintenir sa domination jusqu'au temps de la fin. Le Seigneur dit de cette puissance persécutrice « Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. » Daniel 11, verset 35. L'œuvre de la petite corne. Les commentateurs protestants sont en général d'accord d'appliquer ce pouvoir et la petite corne de Daniel 7 à l'église romaine qui avait le pouvoir civil entre ses mains au temps marqué. Ce temps marqué était un temps, des temps et la moitié d'un temps, Daniel 12, verset 7. Ce sont les 1260 jours prophétiques, 1260 ans, du pouvoir civil de la petite corne qui s'étendirent de « à cette dernière date », le pouvoir civil de la petite corne fut enlevé au temps marqué. Ainsi, à partir de cette date, les gens cessèrent de tomber sous la main de ce pouvoir comme c'était le cas auparavant. Cette année-là, 1798, marque donc le début de cette période de temps que cette prophétie appelle le temps de la fin. L'année 1798 termine les 1260 jours, 1260 ans, pendant lesquels les deux témoins du Seigneur, l'Ancien et le Nouveau Testament, devaient prophétiser vêtus de sacs. Apocalypse 11, verset 3. Pendant le Moyen-Âge de la persécution, âge sombre en anglais, les Écritures étaient conservées dans les langues grecques et latines et les gens du commun ne comprenaient pas ces langues. Ce blocage des Écritures est comparé à des vêtements de sacs. Les deux témoins tués. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Satan excitant les hommes du monde et travaillant à travers eux, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié, et crucifié dans la Revised version anglaise. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre. Apocalypse 11, versets 7 à 9. Le règne de la terreur. L'assassinat de ces témoins a été réalisé pendant le règne de la terreur en France de 1792 à 1795, 3 ans et demi. Bien que la Révolution française durât quelques 6 ou 7 ans, c'est pendant les 3 premières années et demie qu'ils firent leur plus grand effort pour détruire la Bible, la religion et tous ceux qui osaient prendre parti en faveur de l'une ou de l'autre. Alors que la Révolution française prétendait être en guerre contre la monarchie et la prêtrise, elle devint en fait une guerre pour exterminer Dieu et la Bible. De l'époque juste avant la Révolution, nous lisons « N'oublions jamais qu'avant la Révolution de 1792, les promoteurs de l'infidélité en France ont déclaré avoir collecté entre eux et dépensé 4 500 000 dollars en un an, non, plus d'une fois, en achats, impressions et distribution de livres pour corrompre l'esprit des gens et les préparer à des mesures désespérées. » Écrivain infidèle. La voie à une telle révolution fut préparée par les écrits de Voltaire, Mirabeau, Diderot, Helvétius, d'Alembert, Condorcet, Rousseau et d'autres du même acabit, dans lesquels ils s'efforcèrent de diffuser des principes subversifs contre la religion naturelle et révélée. La révélation ne fut pas seulement contestée, mais entièrement mise de côté. La divinité fut bannie de l'univers et un fantôme imaginaire sous le nom de déesse de la raison fut substitué à sa place. En 1793, les vues de la population étaient telles que des comédiens furent fortement applaudis pour leur raillerie blasphématoire contre Dieu et la Bible. À titre d'exemple, nous citons le comédien Monnaire, dans l'église de Saint-Roch, à Paris, porta l'impiété à son apogée. « Dieu, si vous existez, dit-il, vengez votre nom injurié, je vous en défie, vous gardez le silence, vous n'osez pas lancer vos tonnerres. Qui après cela croira en votre existence ?» Œuvre blasphématoire à Lyon, France. La façon dont ceux qui tuèrent les témoins crucifièrent pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie, Hébreux 6, verset 6, apparaît dans le compte-rendu d'une fête tenue par Fouché, à Lyon, en l'honneur de Chalier, le gouverneur de Lyon, qui avait été mis à mort. Avant son arrivée à Lyon, Fouché avait ordonné que « tous les emblèmes religieux fussent détruits » et que l'on écrive sur les portes des cimetières « La mort est un sommeil éternel ». Le buste de Chalier fut promené à travers les rues, suivi par une foule immense d'assassins et de prostituées. Après eux, venait un âne portant l'évangile, la croix et les vases de communion, qui furent rapidement relégués aux flammes, tandis que l'âne fut obligé de boire le vin consacré de la coupe de communion. Un festival de la raison tenu à Paris est ainsi décrit. Ils allèrent en procession à la convention, et la racaille caricatura les cérémonies de la religion de la manière la plus ridicule. Les hommes, portant des tuniques et des capes, sont venus chanter des Alléluia et danser la carmagnole à la barre de la convention. Là, ils y déposèrent l'hostie, les boîtes dans lesquelles elle était gardée, et les statues d'or et d'argent. Ils firent des discours burlesques. « Ô vous !» s'exclama une députation de Saint-Denis. « Ô vous, les instruments du fanatisme, les bienheureux saints de toutes sortes, soyez enfin des patriotes, levez-vous en masse et servez le pays en allant à l'autel de la Monnaie pour être fondu. » La parole de Dieu émerge de l'obscurité. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, les témoins, et ils montèrent au ciel dans la nuée. Apocalypse 11, versets 11 à 12. Le temps était arrivé où Dieu devait faire sortir sa parole de l'obscurité et la replacer devant le monde. Le moment était arrivé, 1798, pour qu'un travail missionnaire se fasse dans le monde entier. En 1804, la Société biblique britannique fut organisée. Elle fut suivie par des dizaines d'autres sociétés bibliques, et maintenant, la Bible est traduite dans toutes les langues principales du monde. Ainsi, les Écritures, les deux témoins, vinrent en proéminence et tout le monde put les voir et les lire. Cela est comparé à leur montée au ciel dans une nuée. À l'époque de la Révolution française, Voltaire déclara que 100 ans plus tard, la Bible serait obsolète. 100 ans après cette date, le nombre de Bibles circulant en France uniquement était plus grand que toute la quantité de Bibles qui existait lorsque Voltaire fit cette vaine fanfaronnade. Et la maison même dans laquelle il fit cette déclaration est, dit-on, utilisée maintenant comme une maison de la Bible. Découverte de la pierre de Rosette. Il y a 2 choses associées à l'année 1798 et au peuple français qu'il faut noter. Tout d'abord, au cours de cette année-là, l'armée française, sous les ordres du général Berthier, renversa le gouvernement papal à Rome, accomplissant, sans qu'il le sache, la prophétie de cet événement, consigné dans le livre même contre lequel ils avaient fait la guerre. En second lieu, la même année, au fort Saint-Julien, sur le bras du Nil appelé Rosette, l'armée française, lors d'une excavation, découvrit la célèbre pierre de Rosette, qui est maintenant déposée au British Museum. Sur cette pierre est une inscription en 3 genres d'écriture, hiéroglyphique, l'écriture utilisée par les prêtres, démotique, la forme d'écriture utilisée par les gens du commun, et grec. Cette pierre est la clé qui déverrouilla les écrits hiéroglyphiques et démotiques jusqu'alors mystérieux. Maintenant, comme l'a dit quelqu'un d'autre, le pic et la pelle, déterrant ces écrits en caractère démotique, fournissent plus de preuves de l'exactitude des anciens écrits bibliques qu'aucune autre source, en dehors des écritures elles-mêmes. Ainsi, le peuple même qui pensait détruire la Bible fut utilisé, à son insu, pour accomplir une prophétie en supprimant la domination de la papauté à la fin des 1260 ans, et pour découvrir la clé des écrits mêmes qui confirment la véracité des écritures qu'ils essayaient si ardemment de détruire. Tu seras debout pour ton héritage. Qu'est-ce qui devait se produire au temps de la fin, selon les propos de l'ange à Daniel? Dès qu'il entendit dire « 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié » Daniel 8, verset 14. Son esprit fut rempli d'anxiété concernant ce qui arriverait à la fin de ces choses, et dans combien de temps cela devait arriver. Daniel 12, versets 6 à 8. Enfin, il lui fut donné de comprendre qu'une connaissance de la date n'était pas pour son époque. On lui dit « Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Daniel 12, verset 13.
Certains supposèrent que ces paroles faisaient référence à la fin du monde et qu'à ce moment-là,
Daniel, avec le reste du peuple de Dieu, recevrait sa récompense et son héritage. Le mot hébreu pour héritage, la région d'un pays, etc., est, nous dit-on, « gevel ». Mais ce n'est pas le mot qui est utilisé dans ce passage. Le mot est ici « goral ». Les érudits hébreux nous disent que ce mot « goral » est utilisé 66 fois dans l'Ancien Testament, et que c'est le même mot qui est utilisé en parlant de la purification du sanctuaire, où l'on tirait au sort afin de déterminer lequel des deux boucs devait être sacrifié. Alors que le souverain sacrificateur prenait le sang du bouc du Seigneur et entrait dans le sanctuaire pour y effectuer l'œuvre de purification, tout le peuple d'Israël était debout dehors, affligeant leurs âmes et confessant leurs péchés, pour qu'ils soient épargnés et qu'ils reçussent la bénédiction du souverain sacrificateur lors de sa sortie du sanctuaire. Ainsi, ce jour-là, Israël était debout pour recevoir son héritage. Lorsque la purification finale du sanctuaire se fera, à la fin des 2300 jours, le cas de Daniel, avec le cas de tous les justes morts, viendrait en revue devant Dieu. Alors Daniel sera debout pour son héritage. Les paroles scellées. Jusqu'en 1798, en réponse à la question de Daniel, « Ô mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Daniel 12, verset 8, on lui répond « Ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Daniel 12, verset 9. Ce qui troublait l'esprit de Daniel était le « quand », le « combien de temps » et « quelle sera l'issue ?» Ce sont là les points qui troublaient le prophète et le rendaient perplexe, et seules ces choses devaient être secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin, et non pas tout le livre de Daniel, comme certains l'ont pensé. Avant 1798, les étudiants de la prophétie avaient la lumière concernant les 70 semaines, et comprenaient qu'elles commençaient en 457 avant Jésus-Christ, le ministère public du Christ, sa mort, etc., étant en exacte harmonie avec le calcul des 69 et 70 semaines comptées à partir de cette date. Cette réalisation exacte de la mission du Sauveur en harmonie avec ce calcul leur avait donné une preuve puissante qu'il était en fait le vrai Messie, et que la date du commencement des 70 semaines était donc immuablement fixée. Leur incapacité à découvrir que les 70 semaines étaient la première partie des 2300 jours laissa le sujet scellé jusqu'à après 1798, comme prédit. Clé des 2300 jours. Voyons maintenant les faits de l'affaire. Jusqu'à 1798, les commentateurs de la prophétie ne savaient pas quand les 2300 jours prendraient fin. Ils pouvaient comprendre les symboles, l'image et les bêtes du livre de Daniel, mais ne pouvaient pas dire quand les 2300 jours se termineraient, car ils ne comprenaient pas encore la date de leur commencement. Comme preuve de cela, nous avons lu dans le Midnight Cry, un journal adventiste publié alors à New York, en date du 15 juin 1842, « C'est vraiment intéressant de découvrir les différents écrivains indépendants qui, depuis 1798, ont vu ce qui n'avait pas été compris auparavant, savoir que les 70 semaines étaient la clé des 2300 jours. » Beaucoup découvrent la lumière. Comme cette connaissance était scellée jusqu'à l'arrivée du temps marqué par le Seigneur pour qu'elle soit ouverte à la compréhension de son peuple, de même aussi, lorsque le temps de la fin arriva, beaucoup couraient ça et là à travers les Écritures à la recherche de ces choses. En comparant quelques traductions du texte, cette idée sera rendue claire. Le docteur Adam Clark dit « Beaucoup s'efforceront de rechercher le sens » et la connaissance doit ainsi augmenter. Dans la Bible allemande, révisée, de Luther, nous lisons « Ainsi, beaucoup viendront sur elle, et auront une grande compréhension. » La Bible parallèle allemande dit « Beaucoup la passeront au crible, et ainsi la connaissance augmentera. » La Bible allemande de L. Van Hess, autorisée aussi aux lecteurs catholiques par le pape, traduit « Beaucoup l'étudieront à fond, et la connaissance sera grande. » La Bible suédoise dit « Beaucoup la chercheront de fond en comble, et la connaissance deviendra grande. » La version danoise-norvégienne, révisée, dit « Beaucoup chercheront avec empressement, et le savoir deviendra grand. » Nous lisons dans le Midnight Cry du 15 juin 1842, concernant cette recherche et l'obtention de la connaissance, qui était scellée avant 1798, « N'est-ce pas une merveilleuse coïncidence que tant d'écrivains, sans aucune connaissance l'un de l'autre, aboutissent à la même conclusion environ à la même époque. Nous présentons ici une liste de 20 partis différents qui découvrirent la vérité sur la fin des 2300 jours, sans communiquer les uns avec les autres, mais comme le résultat d'une recherche diligente et personnelle des Écritures, dirigée par l'influence de l'Esprit de Dieu. À la tête de cette liste, nous plaçons William Miller, de l'État de New York, puis ensuite Krupp, de Philadelphie, Pennsylvanie, David McGregor, de Falmouth, Maine, Edward Irving, d'Angleterre, Archibald Mason, d'Écosse, Davis, de la Caroline du Sud, Joseph Wolfe, qui travailla dans diverses parties de l'Asie, Alexandre Campbell, dans son débat avec Robert Dale Owen en 1829, le capitaine A. Landers, de Liverpool, Angleterre, Leonard Heinrich Kelber, de Stuttgart, Allemagne, Lacunza, d'Espagne, Enze Peter, de La Haye, Hollande, Dr. Capadose, d'Amsterdam, Hollande, Rao, de Bavière, des prêtres de Tartarie, en 1821, des étudiants de la Bible du Yémen, dans leur livre intitulé Sera, Engstenberg, dans une autre partie de l'Allemagne, des Russes sur la mer Caspienne, des Molochs sur les rives de la mer Baltique, etc. Quant à la façon dont ce sujet s'ouvrit de temps en temps aux étudiants de la prophétie, et cela aussi sans connaissance l'un de l'autre, le texte suivant le prouvera. Dans le Midnight Cry du 15 juin 1842, on trouve ces mots. Juste reçu, un livre, avec le titre suivant. Deux essais sur les nombres prophétiques des 2300 jours de Daniel et du devoir chrétien d'enquêter sur la délivrance de l'Église par Archibald Mason, ministre de l'Évangile, à Wishawtown, Écosse, Newburgh. Imprimé de l'édition de Glasgow par Ward M. Gaisley, 1820. Dans ce livre, Mason dit « J'ai vu dernièrement une petite brochure qui a été publiée pour la première fois en Amérique par le révérend William E. Davis de Caroline du Sud et republiée en 1818 à Workington, dans le sud de l'Angleterre. Cet auteur affirme que les 2300 jours commencent avec les 70 semaines, chapitre 9, 24. Je suis contraint d'agréer avec cette opinion. Davis, de Caroline du Sud. Dans le même numéro du Midnight Cry, l'éditeur dit « Le livre de Davis doit avoir été écrit vers 1810. » Parlant du raisonnement établi dans le livre, il déclare « Le lecteur pourrait vraiment s'imaginer lire des œuvres de Miller, Leach, Storrs ou Hale, mais nous croyons qu'aucun des écrivains actuels de la seconde venue ne connaissait l'existence de ce livre jusqu'à la semaine dernière. » L'éditeur de ce journal, le Midnight Cry, n'en avait jamais entendu parler auparavant. La position de Davis sur le temps, approuvée par Mason, était que les 2300 jours prendraient fin pendant l'année juive 1843, notre année 1844. Joseph Wolfe et 20 autres. Dans le Midnight Cry du 31 août 1843, nous pouvons lire. En 1822, Joseph Wolfe, d'Angleterre, a publié un livre intitulé « He will come again, the Son of Man in the clouds of heaven ». Il reviendra, le Fils de l'homme sur les nuées du ciel. Et plus loin, en 1826, 20 personnes de différentes églises traditionnelles se réunirent à Londres avec M. Wolfe pour étudier la Bible. Ils arrivèrent unanimement à la même conclusion. Ils ajoutèrent 45 années aux 1260. Ajouter 45 ans aux 1260 années, qui se terminèrent en 1798, nous amènerait à la fin de l'année juive 1843, qui est en fait notre année 1844. La position d'Alexandre Campbell. Dans le même numéro du journal, il est dit d'Alexandre Campbell, en 1829, il eut son célèbre débat avec Robert Owen, l'infidèle, dans lequel il soutenait que les visions de Daniel s'étendent jusqu'à la fin des temps, que les 2300 jours sont des années et se termineront environ 1847 années après la naissance de Christ, qui, selon son propre calcul, eut lieu 4 ans avant notre ère. Alors, son calcul terminerait en fait les 2300 jours à la fin de 1843 années juives complètes de notre ère, c'est-à-dire en 1844. Dans le Midnight Cry du 21 septembre 1843, on trouve une déclaration concernant un livre reçu ayant ce titre. Une voix à la Grande-Bretagne et à l'Amérique, dans un énoncé scripturaire de la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur, pour laquelle nous prions tous les jours, en disant « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, verset 10, par le capitaine Al Anders de Liverpool, publié par S. Kent et compagnie, 1839. Il fait, comme les autres, un calcul du temps, donnant la fin des 2300 jours comme 1847 années après la naissance réelle du Christ. Ce serait notre année 1844, car il est né 4 ans avant l'ère commune. Leonhard Heinrich Kelber. Dans la Review and Herald du 17 mai 1892, on trouve un article du pasteur Conradi, de Hambourg, en Allemagne, dans lequel il dit « La plupart de nos lecteurs ont peut-être entendu parler de l'important prélat luthérien Bengel, qui fixa, au siècle dernier, selon Schaff, Bengel est mort en 1751, le moment de l'apparition de notre Seigneur à l'année 1836, ses calculs étant basés sur le nombre 666 de l'Apocalypse. Mais bien avant que cette date arrive, un autre homme a commencé à écrire, un directeur d'établissement scolaire nommé Leonhard Heinrich Kelber. Son premier pamphlet parut en 1824, appelé « La fin est proche », contenait un commentaire sur Matthieu 24 et 25. Il a été imprimé en Bavière. Mais en 1835, un plus gros pamphlet, avec le même titre, apparut à Stuttgart, contenant 126 pages. C'est d'un intérêt particulier, et pour donner à nos lecteurs une meilleure idée, j'ajoute la traduction de la page de titre. « La fin vient, un fait prouvé de manière rigoureuse et convaincante à partir de la parole de Dieu et des événements les plus récents, invalidant totalement tous les préjugés contre l'attente de la venue de notre Seigneur ou du calcul de l'époque, montrant clairement comment le prélat Bengel se trompa de 7 ans concernant la grande année décisive, car ce n'est pas en 1836, mais en 1843 que se termine la grande lutte entre la lumière et les ténèbres et que le règne, tant attendu, de paix de notre Seigneur Jésus commencera sur terre. » Une deuxième édition parut en 1841, également à Stuttgart, et autant que je le sache, une autre en Saxe. Comme la page de titre l'indique, la brochure montre, après avoir répondu aux préjugés courants, de façon claire et explicite, la connexion existant entre les 2300 jours de Daniel 8 et les 70 semaines de Daniel 9, et les amène à l'année 1843. Année juive, 1843, notre 1844. Puis dans le reste du livre, il montre par les signes des temps que cet événement doit être proche. Le fait que plusieurs éditions apparurent témoigne à lui seul de l'intérêt qu'il a créé. Frère Chaché, vivant maintenant en Australie, en a vu une publicité, même dans la lointaine province de Silésie, et après l'avoir commandé, le lut avec beaucoup d'intérêt à huis clos. Dans le livre, aucune trace ne peut être trouvée que l'auteur ait eu connaissance d'un mouvement semblable dans le monde, et pourtant, par l'Esprit de Dieu, il est arrivé aux mêmes conclusions. En 1842, il écrivit une brochure encore plus longue de 286 pages, également à Stuttgart, « Pensée biblique majeure concernant la création et la durée du monde », ou une réponse complète à la question « Pourquoi Dieu a créé le monde en 6 jours consécutifs, la proximité du jugement de l'Antéchrist par notre Seigneur et les grands et joyeux événements de l'année 1843. Ben Ezra, Lacunza. Vers 1812, Lacunza, en Espagne, a publié un livre intitulé « La venue du Messie en majesté et en gloire ». L'écrivain a pris le titre anonyme de Ben Ezra et, soi-disant, un juif converti. Edward Irving, d'Angleterre, après que son œuvre sur le second avènement fut commencée, traduisit le livre ci-dessus en anglais. Ainsi, son histoire est racontée au moins en 2 langues. C'est vraiment intéressant, après tant d'années passées, de rassembler les conclusions de plusieurs étudiants qui, depuis le début du siècle dernier jusqu'en 1840, étudièrent la période de 2300 jours et situèrent les 70 semaines au début de cette période, puis de les trouver tous d'accord concernant la fin de la période en 1844. 1844, la véritable fin des 2300 jours. La question peut se poser, peut-on être certain que 1844 est la bonne date de la fin des 2300 jours ? Oui, car aussi sûrement qu'un faux accomplissement d'une prophétie ne puisse pas survenir au moment exact de sa véritable réalisation, aussi sûrement nous en venons à la conclusion que l'année 1844 est la bonne fin des 2300 jours. Dieu, qui scella cette connaissance jusqu'en 1798, et qui promit que la lumière brillerait alors, guida, par son esprit infaillible, ceux qui le recherchaient sincèrement pour comprendre correctement le temps. Son temps était venu pour que la connaissance sur le sujet augmente, et il donna la vraie lumière. Ayant trouvé la fin de la période qui fut portée à la compréhension des gens au temps de la fin, il est bon de s'informer de la signification de cette découverte. Nous trouvons dans cette période, lorsque l'œuvre de l'Évangile se termine, une date déterminée qui doit être proclamée, annonçant la séance du jugement final. Jean dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Il disait d'une voix forte « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Apocalypse 14, versets 6 à 7. Les anges n'annoncent pas eux-mêmes l'évangile aux hommes. L'homme est l'agent choisi par le Seigneur lui-même pour prêcher son évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Matthieu 28, versets 19 à 20. Cet ange, alors, est un symbole du message de l'Évangile qui annonce que le moment vient où le jugement va commencer par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, verset 17. Un tel message des Écritures ne pouvait pas être donné avant que le temps qui conduit au jugement fût découvert dans les Écritures. La période des 2300 jours, comme nous l'avons déjà indiqué, s'étend jusqu'au jugement investigatif du peuple de Dieu. Le jour des expiations, le temps du jugement. Le jour des expiations, la purification du sanctuaire terrestre, était et est encore compris par les Juifs comme étant un jour de jugement. Et même maintenant, dans la diaspora, bien qu'il ne puisse pas avoir tous les services de l'ancien temps associés à ce jour solennel, il est observé comme un jour de jugement. Comme preuve, nous allons d'abord citer un journal juif publié à San Francisco, Californie, appelé The Jewish Exponent, le journal des Juifs orthodoxes à l'ouest des montagnes Rocheuses. Le numéro de septembre 1892 annonçait que le septième mois et le jour des expiations auraient lieu avant la sortie du numéro suivant. Leur nom pour le septième mois est Tishri et celui du sixième est Elul. Le journal déclarait « Nous sommes au mois d'Elul » et la sentinelle sonnera du shofar, trompette qui était utilisée du premier au dixième jour du septième mois. Psaume 81, versets 3, 4. Tous les matins dans les synagogues orthodoxes, exhortant à la préparation de la journée du souvenir et pour le jugement dernier du Yom Kippour. Comme ils étaient vers la fin des louls, le sixième mois, et que Tishri, le septième mois, allait bientôt commencer, ils allaient entendre la trompette tous les matins pendant 10 jours, annonçant, dans ce système typique, le jugement dernier de l'année. Témoignage d'un rabbin. De plus, en 1902, le rabbin Isidore Mayer, d'une grande congrégation de juifs de San Francisco, en Californie, en annonçant le jour des expiations, a déclaré « En franchissant le seuil du temps d'une année à une autre, l'Israélite est rappelé avec force de la création et de la souveraineté universelle du Créateur, et est appelé à célébrer, au son de la trompette, l'anniversaire, pour ainsi dire, de la naissance du temps et de l'intronisation du grand roi. Il est également intimé, au son de la même trompette, le shofar, d'examiner rétrospectivement ses actions de l'année écoulée, alors qu'il se tient tout tremblant devant l'œil qui voit tout de la justice éternelle, assise sur le trône du jugement. Comme dans le service du temple juif, le sanctuaire était purifié une fois par an, il dut sembler évident à Daniel que cette purification du sanctuaire, à la fin des 2300 jours, devait se rapporter à autre chose que le service typique annuel. Le Seigneur avait déjà instruit son peuple de compter un jour pour chaque année. Nombre 14, verset 34, Ézéchiel 4, verset 6. Pour les symboles de temps utilisés dans les prophéties. C'est pourquoi cette période de 2300 jours, comme nous l'avons vu, va jusqu'à l'œuvre finale du Christ comme souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste, pour le jugement investigatif de ceux dont les cas ont été transférés dans le sanctuaire céleste par confession. Le message du jugement dû en 1844. La date du commencement du jugement des saints ayant été découverte et la succession des événements ordonnés par le Seigneur étant indiquée dans la prophétie, la voie était ouverte pour que le message soit donné « L'heure de son jugement est venue ». Notez, il n'est pas dit qu'immédiatement après la découverte de cette période de temps, le message serait proclamé, mais que la lumière précédemment scellée serait clairement expliquée. Nous voyons bien que cela fut accompli. Dans les chapitres suivants, il apparaîtra que le Seigneur indiqua tout aussi clairement l'époque où le message adventiste serait proclamé, et que tout aussi littéralement, la proclamation serait donnée au monde.